ressuscité. À toi la victoire.
Chers amis, soyez les bienvenus sur le site de l'église protestante de Blégny. Daniel Zavagnon au micro. J'espère que vous allez tous bien et je désire que ce culte puisse vous apporter la bénédiction du Seigneur sur votre vie. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voilà réunis de nouveau de façon virtuelle. Mais toi, tu es un Dieu bien réel, toujours à l'écoute de tes enfants. Nous te bénissons pour cette semaine écoulée. Merci de nous avoir protégés et gardés. Veuille bénir ces quelques moments que nous passerons en ta présence afin d'écouter ce que tu as à dire à nos cœurs. Pose ta main bénie sur chacun d'entre nous. Relève les faibles, soulage les malades, que chacun d'entre nous soit fortifié en toi. Seigneur, merci pour ta présence et ton amour. À toi toute la gloire. Amen. Avant d'aller plus loin dans ce moment, je vous propose d'écouter un chant magnifique qui a pour titre « Je viens vers toi, Jésus ». le texte suivant qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Nous vivons des moments difficiles, nous le disons et nous le répétons souvent. Depuis plus d'un an, nous nous apercevons que ces paroles sont encore plus d'actualité. Cette pandémie a précipité vers la faillite et les difficultés bon nombre d'entreprises. Nous pensons aux travailleurs de l'Horeca. Nous pensons à beaucoup de commerces appelés non essentiels qui doivent fermer leurs portes. Nous pensons à toutes les usines qui ont ralenti leur production car les carnets de commandes ne sont plus assez remplis. Nous vivons dans l'inquiétude. Nous avons peur du lendemain. La récession et le chômage sont à nos portes. Le monde est inquiet et aux abois. Y a-t-il un espoir afin de nous en sortir? Et nous, chrétiens, nous sommes aussi dans l'inquiétude, car tout comme nos contemporains, nous vivons dans ce monde déboussolé, et nous subissons aussi les effets de la crise. Mais Jésus nous laisse une parole stupéfiante dans ces moments. Il nous dit de nous inquiéter de rien. Mais Seigneur, comment ne pas s'inquiéter quand tout s'écroule autour de nous? Dieu est conscient de l'instant que nous vivons. Mais il tient ce monde dans sa main. Il sait de quoi nous avons besoin en toutes circonstances. Il a une solution pour ses enfants. Moi qui vous parle, je me suis trouvé à plusieurs reprises dans cette situation de désespoir, ayant perdu mon emploi et me demandant comment clôturer nos fins de mois. Je puis témoigner que Dieu a répondu au-delà de mes espérances, en pourvoyant et bien sûr en me permettant de retrouver du travail. Dieu ne nous délaisse pas, Dieu ne nous abandonne pas. Non, chers amis, ce n'est pas de l'inconscience, mais de la foi. Jésus nous demande de lui faire confiance, en toutes circonstances. Mettons notre confiance en lui et il agira dans nos vies. Écoutons ce que nous dit le prophète Ésaïe, au chapitre 41, verset 10. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite, la main de la justice. Si nous sommes inquiets ou angoissés, regardons vers notre Dieu. Il est notre soutien et notre secours. Non, nous ne serons jamais seuls avec lui. Prions. Seigneur, nous vivons des temps difficiles. Bon nombre d'entre nous sont désespérés et découragés, ne sachant pas vers qui se tourner. Mais toi, Jésus, tu tends ta main secourable à l'humanité afin de nous tirer vers le haut. Ô Dieu, secours nos amis accablés, qu'ils trouvent en toi paix et secours. Bénis ta parole qui sera apportée et qu'elle rencontre nos besoins. Seigneur, nous t'avons prié dans le bon nom de Jésus. Amen. Avant de laisser la place à Jean-Luc Cardon qui nous apportera le message, je veux vous faire écouter un chant, c'est mon coup de cœur de la semaine, le titre « Sauve-moi Jésus-Christ » par le collectif Emmanuel Musique.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. J'aimerais, dans une première lecture, prendre deux versets du récit de Pâques au matin de la résurrection de Jésus. Version Darby, Luc 24, versets 6 et 7. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous comment il vous parla quand il était encore en Galilée, disant « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Un deuxième texte sur les ordonnances de l'institution de la Pâque juive suite à la sortie d'Égypte du peuple de Dieu. Exode 13, versets 3 à 5 et le verset 8. Version second. Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Éthiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. » Verset 8. Tu diras alors à ton fils, « C'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi, lorsque je sortis d'Égypte. » Et enfin, une troisième lecture dans Nombre 11, versets 4 à 6, toujours la version seconde. Là, le peuple est dans le désert. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dirent « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poros, des oignons et de l'ail. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Jusqu'ici les lectures et je vous invite à la prière. Père éternel, nous voici devant toi et aux pieds de Jésus pour nous ressourcer par ta parole. Mets en nous la plénitude du Saint-Esprit pour que nous puissions t'écouter comme toi tu nous écoutes. Enseigne-nous par ta vérité, au nom de Jésus. Amen. Vous avez certainement déjà entendu cette histoire d'un petit garçon qui arrive à la boulangerie et qui demande s'il y a de la tarte aux concombres. Évidemment, la vendeuse de répondre que non. Et notre petit gamin revient tous les jours et pose la même question. « Avez-vous de la tarte aux concombres ?» Et toujours la même réponse. « Ben non. » Mais la boulangère qui a le cœur sur la main est prise de compassion et décide de faire spécialement une tarte aux concombres pour satisfaire le petit garçon. Et comme de fait, il revient à la charge. « Avez-vous de la tarte aux concombres ?» Ah, la boulangère est heureuse. « Eh oui !» Et le petit garçon de répondre « C'est pas bon, hein ?» Cette histoire, qui n'est pas réelle, nous fait bien rire. Je ne veux pas faire non plus le procès du concombre, mais j'essaie seulement de comprendre le peuple d'Israël dans le désert qui a la nostalgie du concombre. Verset 5 de notre texte, « Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poros, des oignons et de l'ail. » Ce verset 5 est en soi unique. Il comprend à lui seul quatre mots qui ne sont repris qu'une seule fois dans toute la Bible. Concombre, melon, oignon et ail. De plus, pratiquement tous les traducteurs sont d'accord sur le terme traduit par poro, alors que le mot hébreu utilisé est herbe, dans le sens de verdure, herbage, gazon, foin. Nous pourrions nous poser la question de la réalité historique de cette énumération de produits de la terre. Mais pour ça, je vais laisser la parole à Alfred Kuhn dans l'encyclopédie des difficultés bibliques sur Nombre 11, verset 5. Les poissons sont si abondants dans le Nil qu'ils se vendent à vil prix. Le concombre vert atteint en Égypte une longueur de 30 cm et il est assez tendre et doux pour être mangé cru. Les melons d'eau ou pastèques sont cultivés en si grande abondance qu'ils se vendent à bas prix sur le marché encore aujourd'hui. Pline, écrivain romain du 1er siècle, dit que les poros d'Égypte sont recommandés pour leur délicatesse. Nulle part, les oignons ne prospèrent comme en Égypte. Leur saveur en fait le mets de prédilection du peuple, qui les mange cuits ou rôtis. Et d'après Hérodote, historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, une inscription des pyramides indiquait combien les ouvriers qui avaient travaillé avaient mangé d'oignons et d'ail. Tous ces aliments sont aujourd'hui encore la nourriture habituelle des basses classes de l'Égypte. Fin de citation. Tous ces aliments sont donc la nourriture des pauvres. Et pour notre lecture, c'est le souvenir du peuple qui murmure. Mais si nous relevons la question au verset 4, qui nous donnera de la viande à manger? Et la conclusion du verset 6, maintenant notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que la manne. Bizarre, vous avez dit bizarre, quel contraste étrange et quelle drôle de constatation. Ils veulent de la viande à manger alors que leur souvenir est une simple liste de courses végétariennes de base et du poisson. Ils veulent de la viande alors qu'ils sont partis avec des troupeaux considérables. Nous lisons ça dans Exode 12:37. Mais maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Oh, pauvres petits malheureux, ils n'ont plus rien. Ils ne voient que la manne. On va finir par les plaindre. Il est vrai que de se retrouver dans le désert n'est pas gai pour personne. Et Paolo nous le rapportait dans sa prédication de la semaine dernière. Mais Dieu qui a fait des promesses et leur a donné la manne comme nourriture journalière. Mais dans leur souvenir, ils mangeaient des poissons qui ne leur coûtaient rien. Ils ont oublié qu'ils étaient esclaves. Relisons. Exode 13, verset 3. Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Tu diras alors à ton fils, « C'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. » Le peuple a oublié que c'est grâce à Dieu qu'il y a un avenir, une perspective, comme on dit aujourd'hui. Oh oui, ils ont devant eux le désert, d'accord, mais au-delà, c'est le pays où coule le lait et le miel. Mais plus rien, nos yeux ne voient plus que la manne. Quelle ingratitude! Mais qu'est-ce qui a influencé le peuple? Dans un premier temps, c'est eux tout seuls. Verset 1, nombre 11, le peuple murmura. Et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Et deuxièmement, verset 4, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer. Le ramassis, encore un mot que l'on ne trouve qu'une seule fois dans toute la Bible. Et d'après le petit Larousse, ramassis veut dire « ensemble de choses de peu de valeur » ou de personnes jugées peu estimables. Le peuple de Dieu a finalement le pompon pour s'entourer de choses et de personnes qui ne valent pas grand-chose. Mais à leur décharge, nous rappelons qu'ils ont vécu 430 ans en Égypte, et n'ayant jamais rien connu d'autre, ils auraient eu pas mal de difficultés à faire la part des choses. Mais qui sont ces gens qui constitue ce que l'auteur du livre des Nombres qualifie de « ramassis ». Lisons dans Exode 12, versets 37 et 38. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Soukhot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Une multitude de gens, un amas de gens. C'est à prendre dans le sens de la pensée du texte original, un mélange de personnes. et second l'exprime bien, une multitude de gens de toute espèce. Probablement des personnes ramenées en Égypte lors de leurs invasions diverses pour en faire des esclaves. Des gens de toute dénomination, de toute culture, de toute religion connue de l'époque. Il était fréquent que des famines obligent des familles à descendre en Égypte pour ne pas mourir de faim et de finalement s'y installer. En 430 années, les causes de ce mélange ont été nombreuses, ne fût-ce que par mariage. Tant il soit bien que de tout ce ramassis, nombreux sont ceux qui ont suivi le peuple de Dieu dans l'espoir d'une vie meilleure. À la différence des Hébreux, ils n'ont peut-être pas toutes les informations concernant les promesses divines. Et dès que les difficultés du désert obligatoire à traverser arrivent, ils se souviennent que, tout compte fait, on était bien en Égypte. On était logés, nourris, et on avait du travail pour tous. Les poissons étaient gratuits et les fruits et légumes bon marché. Mais dans ce désert pourri, il faut monter les tentes, ramasser la manne, la broyer, la faire cuire, etc. Et puis il fait chaud et pas d'eau à proximité, etc. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Et le peuple de Dieu écoute ces murmures. Et que font-ils? Ils pleurent. Ils se lamentent au lieu de relever la tête, de se souvenir des promesses de Dieu et de les partager. Non, ils pleurent. Nous avons en Égypte 430 ans de souvenirs. On a toujours été comme ça. On a toujours fait comme ça. On préfère écouter les ragots que de se rappeler les promesses de Dieu. Pourtant, en très peu de temps, le peuple a vu la main de Dieu face à Pharaon. Il a pu voir que Dieu accomplissait ce qu'il avait dit. Il avait passé la mer rouge à pied sec. Il avait été conduit de jour comme de nuit par la nuée et la colonne de feu. Le peuple de Dieu avait vu sa puissance et avait pu comparer par rapport au Dieu des Égyptiens. Mais rien n'y fait. La convoitise des autres a entraîné la panique dans les rangs des enfants de Dieu. Et j'aimerais à ce stade nous poser la question, qui écoutons-nous le plus souvent? Paolo, la semaine dernière, citait Karl Barth en disant qu'un pasteur devait prêcher avec la Bible d'un côté et le journal de l'autre. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation, mais il doit y avoir un équilibre, un discernement. La parole de Dieu doit toujours primer. Si je me laisse influencer par la convoitise du journal, je serai malheureux et loin d'être dans la joie du Seigneur. Si je reviens à mon récit de la résurrection de Jésus, nous retrouvons un groupe de femmes qui passent par plusieurs sentiments. Tristesse. Jésus est mort, nous allons embaumer son corps. Questionnement. Qui nous roulera la pierre? Perplexité. Le tombeau est vide. Où est Jésus? Crainte. Deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Qui sont-ils? Trouble. Qu'est-ce que cela signifie? Le corps n'est plus là, et on ne sait où on l'a mis. Toutes ces questions et angoisses auraient pu être évitées si elles s'étaient rappelées ce que Jésus avait dit. Je vous relis Luc 24. Versets 6, 7. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous comment il vous parla quand il était encore en Galilée, disant « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Ce qu'il dit, il fait. Quel souvenir avons-nous de ce que Jésus a fait pour nous et nous a dit? De même que Dieu a fait sortir le peuple de l'esclavage par sa main puissante et qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts pour nous libérer, il peut encore aujourd'hui nous rendre parfaitement libres. Notre part à nous, c'est nos souvenirs. Souvenez-vous. Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude. Souvenez-vous du jour où Dieu vous a tiré de la boue du péché. Souvenez-vous du jour où Jésus a tout accompli pour vous. Souvenez-vous du jour où le Saint-Esprit a fait sa demeure en vous. Souvenez-vous aussi de ce verset repris par Ésaïe, Jérémie et l'Épître aux Hébreux. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit Dieu. Dieu nous dit, souvenez-vous des bonnes choses, des choses essentielles, des promesses d'un Dieu qui ne change pas d'avis, ou de loi tous les 15 jours. Souvenez-vous que je suis qui je suis, pour que vous soyez qui vous êtes, des filles et des fils de Dieu par Jésus-Christ. Les temps sont difficiles, je n'en disconviens pas. Nous sommes dans un désert, je suis d'accord avec vous. Nous n'avons plus rien, nous ne voyons plus rien. Un peu comme le peuple hébreu. Nombre 11, verset 6. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Si nous nous arrêtons sur la première partie du verset, nous n'avons plus que nos yeux pour pleurer. La deuxième partie relève d'une importance capitale. Relisons. Nos yeux ne voient que la manne. Un peu banal, quoique. Il y a le que. Il n'y a que ça. Mais ça, c'est la manne. C'est la nourriture que Dieu nous donne chaque jour. C'est le cadeau de Dieu pour empêcher que nous mourions de faim. C'est la main de notre Père qui pourvoit ses enfants. Si nous ne voyons que nous n'avons plus de culte ensemble, que nous sommes seuls à la maison, que nous manquons de tout, que nous n'avons plus d'études bibliques, que, alors nous ne verrons peut-être que l'aspect matériel, sans vraiment discerner la main de Dieu. Si comme les femmes le matin de Pâques, nous ne voyons que le tombeau vide, nous passerons à côté de l'essentiel. Christ est ressuscité. Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. Souvenez-vous, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, et qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi. Alors, en conclusion, quel souvenir est dans notre esprit? Le gâteau au lait et au miel promis par Dieu, ou la tarte au concombre que nous donnait l'Égypte? Que le Seigneur nous renouvelle notre vision de lui, pour que nous puissions voir comme lui voit, et que nous puissions donner de l'espérance à nos enfants. Amen.
Quand le vol de la tempête vient à rassombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. La route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu peux. perdant le voyage. Plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage. Qu'il a honte reste encore.
Le protocole pour les lieux de culte n'étant pas encore favorable pour nous réunir valablement, nous continuerons pour l'instant nos transmissions audio et vidéo, aussi en synergie avec Herstal Sherat. Je vous rappelle nos rendez-vous de prière le mardi soir. Une minute ou une heure, peu importe. Le but est de faire monter nos remerciements, nos actions de grâce, nos intercessions, nos requêtes vers le trône de la grâce de notre Seigneur. Vos dons peuvent toujours être récoltés via le compte de l'Église que vous trouverez sur la page de Bligny via notre site et pub Bligny. Nous nous retrouverons, Dieu voulant, dimanche prochain. En attendant, comme dit la formule, portez-vous bien et soyez prudents. Mais surtout, souvenez-vous que Dieu vous a voulu libre à grand prix. Que la grâce et la paix vous accompagnent. Amen.